Europe 1.
Heures sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, en quelle joie de vous accueillir dans un nouveau numéro tout beau, tout frais, tout rutilant d'Historiquement vôtre. Avec celui qui est aussi tout beau, presque frais et rutilant, mais pas autant que sa voiture.
Oh oui.
Bonjour Mathieu Noël.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Chaque après-midi, vous le savez, on vous raconte l'histoire sans se la raconter, autour de trois personnages très différents qui n'ont pas vécu à la même époque, mais qui avaient un point commun. Aujourd'hui, celui d'être des comédiens malgré eux. Tout l'inverse de Stéphane, qui lui est un comédien né. Hein, comme vous le découvrirez bientôt dans le biopic sur Louis XVI, où il joue un majordome plus vrai que nature au moment de la fuite à Varennes.
Ouh, où êtes-vous? On vous cherche partout.
On n'a pas de date de sortie, mais on vous tient au courant, promis.
Ah mais quelle mesquinerie.
Oui, n'hésitez pas, moi-même, j'ai hâte de savoir.
En attendant donc, soyons sérieux, nos personnages étaient, eux, des comédiens malgré eux.
Voir les comédiens, voir les musiciens.
À commencer par un certain Jean Gabin, qui ne voulait pas faire le métier, qui a pourtant fait de lui ce qu'il est devenu, un monstre sacré. Gabin reste aujourd'hui encore, et 45 ans après sa mort, qu'on commémore aujourd'hui même, l'un des acteurs préférés des Français, avec ses répliques cultes. Puis, je vous raconte celle qui fut bien avant lui une comédienne de scène, Alice Ozy, qui a embrassé ce métier par amour pour un garçon comédien qu'elle avait embrassé juste avant. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un acteur plus proche de nous, Omar Sy. Il ne voulait pas être comédien, Omar Sy.
Non, il voulait être plombier chauffagiste. Quand Toledano et Nakache lui ont proposé un rôle dans leur premier film, il a dit « Non, je suis pas comédien, mais je peux vous faire un forfait entretien ». Finalement, il a accepté pour se marrer. La suite, on la connaît.
Et avec nous, comme chaque jour, ce sont nos chroniqueurs.
Non, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout. Du mou, là, du mou. Et l'autre, à la rombière. La galon gélatinée Saint-Dou. Trois mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche.
Eh bien, bon. Cher rombière. La présentation de Gabin ne vous rend pas vraiment hommage. Mais elle nous entraîne pourtant dans l'intimité des grandes ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oui, ben bonjour quand même, mais vous êtes vraiment des ploucs, hein, tous ici réunis. Chapeau.
Jean Gabin,
hein.
C'est pas nous.
Oui, c'est Jean Gabin, chapeau. Alors, autre comédien ou pas, Georges Sand et Chopin. Ces deux noms sont associés dans notre imaginaire comme le sont Roméo et Juliette. Et pourtant, derrière la légende, on découvre une histoire plutôt triste. Alors, est-ce que c'était une grande histoire d'amour ou une comédie sentimentale?
Vous nous emmènerez à Val-des-Moissins.
Exactement, mais ça ne vous plaira pas parce qu'ils étaient chacun dans leur cellule et ils faisaient chambre à part.
Ouais, mais j'y suis allé,
ça va pas vous
pour
plaire.
Les retrouver. Aujourd'hui, c'est Olivier Pouls qui nous parle vraiment d'une de ses passions aussi.
Oui, lui, ce n'est pas Chopin, c'est plutôt la Chopine. Mais aujourd'hui, pas de liquide dangereux, une bonne tarte au sucre.
Une tarte au sucre, comme on dit dans le Nord chez moi. Vous savez que Gabin était un sacré client à table. Il avait une réputation terrible.
Il paraît que Lino Ventura aussi.
Et quand on les mettait ensemble, il y a des vidéos sur internet qu'on peut revoir entre Gabin, Ventura et Blier. Et je peux vous garantir que ça ouvre l'appétit.
C'est les deux colosses, un peu comme David Castello-Lopez.
C'est colosse. C'est muscles, les pectoraux qui vont faire exploser la chemise.
Mais j'arrive à être musclé en étant maigre. Parce que quand on a vraiment pas de graisse du tout,
on voit les muscles.
C'est pas le meilleur type de muscle. Et d'ailleurs,
transition.
Ça fait 30 secondes
qu'on essaie de lancer là-dessus sur les muscles. Ça fait
voir de moi, c'est sympa.
C'est vrai que c'est pas mal de muscles. Voyons voir, je vais me regarder un peu. Voyons voir, oui, je suis bien. Oui, mais de quoi? Mais quel est votre sujet aujourd'hui?
De musclor, exactement. Qui ici sait qui est musclor?
Moi, j'avais la figurine quand j'étais petit.
Oui. C'est un personnage qui est extrêmement musclé, d'où son nom, et qui est aussi extrêmement vertueux. C'est-à-dire, il utilise ses muscles à bon escient, ce qui n'est pas le cas de son rival Skeletor.
Enfin, comme Stéphane, vous aimez la préhistoire, la proto-histoire, l'histoire de l'automobile et surtout l'Égypte antique. Vous pensez comme lui que Thoutmôsis est une maladie de peau? Rendez-vous aux alentours de 5h20 pour Bern to be alive, le quiz qui prend souvent en défaut l'égyptologue Bern, le Christian Jacques de la Louse. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il disait, c'est du vent le cinéma, de l'illusion, des bulles, du bidon. Il ne voulait pas faire ce métier qui a fait de lui pourtant cet acteur à part dans le paysage français. À l'occasion des 45 ans de sa disparition, Stéphane Bern nous raconte celui que personne n'a oublié, le géant Jean Gabin.
En un demi-siècle de musical et de cinéma, Jean Gabin a réussi à incarner l'acteur populaire par excellence, au sens noble du terme. Un homme en qui tous les Français pouvaient se reconnaître. Gabin, c'était la France des faubourgs, des usines et des docks, celle qui allait au café ou à l'épicerie pour y tailler le bout de gras avec des mots qui n'étaient pas toujours des plus académiques mais qui sentaient bon l'argot avec toute l'inventivité gouailleuse de la langue verte. Du front populaire aux 30 glorieuses, Gabin aura tout joué ou presque, en se frottant à tous les rôles, à tous les métiers. Il aura été ouvrier, routier, déserteur, truand ou trapéziste. Il a incarné des paysans, des industriels et même un président du conseil, tout en prêtant ses traits à quelques figures de la littérature, comme le Jean Valjean de Victor Hugo, le commissaire Maigret de Georges Simenon ou Jacques Lantier, le conducteur de locomotive de La Bête humaine de Jean Renoir, tiré du roman d'Émile Zola. Mais si Gabin s'est glissé avec une apparente facilité dans tous ses costumes, c'est peut-être parce que le métier de comédien est sans doute l'un des rares qu'il n'avait jamais envisagé dans son enfance ou à ses débuts. Dans les années 1910, le petit Gabin rêvait de beaucoup de choses, mais certainement pas des planches ou des caméras. Il se voyait fermier, éleveur, manœuvre ou mécanicien. Ça oui, mais acteur, certainement pas. Enfant, il aime les choses plus concrètes, la nature, les bêtes, la moisson ou les belles locomotives à vapeur. La scène, les grands auteurs, les planches et le public, très peu pour lui. Et pourtant, il avait tout sous les yeux pour se lancer. Gabin voit son comédien de père, Ferdinand, s'exercer pour chanter ici ou là un air d'opérette. Même chose du côté de sa mère Hélène, qui met le feu dans les salles des cafés-concerts parisiens. Ses parents rêvent de le voir suivre la tradition familiale, mais pendant longtemps, rien à faire. La mayonnaise ne prend pas. Il faut que son père le prenne par surprise un beau matin pour l'amener aux Folies Bergères, où il le présente au directeur, son ami Fréjol. « Tiens, voici mon fiston. Peux-tu l'aider ? Si tu arrives à en tirer quelque chose, tu auras bien du mérite. Moi, j'y renonce. » C'est ce qu'on appelle arriver à reculons devant la profession. Et pourtant, très vite, le petit Gabin se révèle doué. Jean a du talent, mais c'est surtout un bosseur. Comme pour Fernandel ou Yves Montand, l'école du musical, exigeante et précise, va à merveille à ce grand travailleur. En 1926, à 22 ans, Gabin est un artiste complet, assez doué pour être repéré par Miss Tinguette, celle qui a de belles gambettes, c'est vrai, dont il devient deux ans plus tard le partenaire à la scène du Moulin Rouge au Bouffe Parisien. Le cinéma ne tarde pas à s'intéresser à cette belle gueule pleine de talent. Et encore, le noir et blanc ne permet pas encore aux spectateurs de profiter de ses beaux yeux bleus. Gabin commence à aligner les petits rôles avant de connaître le succès. Dans le milieu des années 30, quand il se met à tourner pour les plus grands. Il joue pour Julien Duvivier dans La Belle Équipe et Pépé le Moko avant de croiser la route de Marcel Carné ou de Jean Renoir. Une génération de cinéastes qui peut s'appuyer sur des scénaristes de talent comme Charles Spack ou Jacques Prévert. C'est à Prévert et à Carné, justement, qu'il doit l'une des répliques les plus célèbres du cinéma français dans Quai des Brumes, quand il se perd dans le regard clair de Michel Morgan.
T'as de bons yeux, tu sais.
La Deuxième Guerre interrompt d'autant plus son ascension que Gabin refuse tout net de tourner des films dans la France de Pétain, écœuré par la censure qui s'abat sur les plateaux de cinéma. Il part alors pour les États-Unis en 1941, où le célèbre studio Century Fox lui fait signer un joli contrat, où aussi il croise la route de l'ange bleu en personne, Marlène Dietrich, qui sera pendant 6 ans sa compagne. Mais l'aventure américaine tourne court. Frustré de gagner sa vie devant les caméras pendant qu'on se bat dans le monde entier, Gabin s'engage en 1943 dans les forces navales françaises libres. En 1945, le voilà qui rejoint même la célèbre division blindée du général Leclerc, la célèbre 2e DB, la première à entrer dans Paris en août 44. À 40 ans, le plus vieux chef de char de la France libre fait partie de ceux qui libèrent la poche de Royan, puis qui foncent à travers l'Allemagne dans une dernière ruée jusqu'au célèbre nid d'aigle d'Hitler, le Berghof, à côté de Berchtesgaden. Peu connu, l'épisode illustre aussi la modestie de Gabin, qui refusera toujours de s'étendre sur son passé de combattant, un passé assez honorable pour lui avoir pourtant valu la croix de guerre et la médaille militaire. Démobilisé en juillet 1945, Jean Gabin retrouve les plateaux. Mais sa carrière piétine d'abord dans l'immédiate après-guerre. Il rate par exemple le premier rôle dans Les Portes de la Nuit de Marcel Carné que lui souffle un petit jeune homme qui monte, Yves Montand. Il a plus de 40 ans, il a vieilli avec ses cheveux déjà blancs et il comprend avec finesse que c'en est terminé des rôles de jeune premier ou de bourreau des cœurs. Fini l'ouvrier gouailleur d'avant-guerre, place au type carré. solide et fort en gueule. Un tantinet comme dans La Traversée de Paris, où il donne la réplique à Bourville, et un jeune acteur encore inconnu, Louis de Funès.
Partez sans histoire. Ici, c'est une maison tranquille.
Et honnête.
Honnête. Seulement t'emploies des juifs dans un établissement public, hein?
Mais je n'emploie pas. Elle me rend service.
Ah, parce que tu l'exploites en plus. Dis donc, j'ai bien envie de te dénoncer, moi, pour t'apprendre à vivre.
Salope pauvre.
Dans la seconde partie de sa carrière, Gabin a aussi la chance de croiser des dialoguistes de génie, surtout un, Michel Audiard, qui se fait une joie de placer dans la bouche de Gabin quelques-uns de ses plus beaux morceaux de bravoure, que ce soit avec Touchez pas au Grisby ou Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil, où il donne la réplique à Alain Delon.
Oh, bah dis donc, ça fait plaisir.
Oui, bah dis donc, on se dira des gentillesses plus tard. T'as du temps devant toi ?
Année après année, Gabin cultive ce personnage de patriarche de plus en plus épais, bourru et sarcastique. Pour des millions de Français, Gabin, c'est le Dab, ou plutôt le Pacha, autre grand film, où d'autres dialogues d'Audiard font mouche dans la bouche de Gabin.
À quoi tu penses ?
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
C'est le temps du mentor, taiseux et redouté, qui fait si peur à de jeunes acteurs comme Delon Belmondo quand ils le croisent la première fois avant d'être adoubé par le Pacha. Petit à petit, Gabin s'éloigne pourtant de plus en plus des plateaux et passe de plus en plus de temps à La Pichonnière, un domaine de Normandie qu'il a acheté pour y assouvir sa passion de la terre, de l'élevage et des chevaux de course. C'est d'ailleurs l'occasion d'une blessure qui ne se refermera jamais vraiment. Lui qui avait toujours cherché le respect du monde paysan, voit un jour de l'été 62 débarquer 700 agriculteurs chez lui, furieux de voir Gabin racheter des terres en pleine crise agricole. En 1976, Jean Gabin revient à Paris pour présider la toute première cérémonie des Césars, mais l'âge le rattrape. À 72 ans, quelques jours avant de recevoir la Légion d'honneur de la part de son ancien chef dans les FFI, l'amiral Gélinet, Gabin entre à l'hôpital américain de Neuilly, où il s'éteint le 15 novembre, victime d'un cœur trop fragile. À ses funérailles, les Français font un triomphe à celui qui pensait qu'il serait vite oublié du public. Rien de plus faux. 45 ans après qu'un aviso de la Marine nationale ait dispersé ses cendres en mer d'Iroise, sur autorisation spéciale du président Valéry Giscard d'Estaing, Gabin reste l'un des acteurs les plus aimés des Français. Comme Prévert, qu'il avait un jour décrit comme un gentleman de la peuplerie, il savait reconnaître l'un des leurs, et ils le savent toujours d'ailleurs.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Jean Gabin, nous avons le plaisir d'accueillir un spécialiste du cinéma français. Bonjour Philippe Lombard.
Bonjour.
Bonjour Philippe Lombard. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur les grands noms du cinéma et le dernier, Les grandes gueules du cinéma français, quand Gabin, Ventura, Belmondo et Delon régnaient sur grand écran, qui vient de paraître aux éditions Hugo Doc. Vous citez Gabin en premier parce qu'il est arrivé en premier. Pour vous, c'est la première de toutes ces grandes gueules du cinéma français. Avant lui, ces grandes gueules n'existaient pas au cinéma.
Oh non, oh, si, bah, si, si, il y avait quand même... Bon, lui, il a commencé dans les années 30, donc il est devenu une grande vedette au milieu des années 30. Avant, il y avait déjà, il y avait Rému, il y avait Harry Bore, il y avait tous ces gens-là. Donc, il aura juste survécu, donc il a eu une plus grande carrière, quoi. Mais...
Au-delà de lui, vous citez cette phrase de Delon. Gabin aurait pu avoir un jeune frère spirituel, c'était Lino Ventura, et puis deux fils, Jean-Paul et moi. Il a ouvert la voie, vraiment. C'est presque comme une famille, le cinéma français, ou c'est... A posteriori qu'on imagine tout ça.
Oh, une famille, non, mais c'est vrai que là, ces quatre-là, ils forment une sorte de club un peu fermé, quoi. Je pense pas qu'on mettrait naturellement dans ce groupe-là Montand ou Jean Marais, vous voyez.
C'est vrai.
Donc, ils représentaient chacun une vision un peu de l'autorité, d'une certaine idée de la masculinité aussi, et voilà.
Mais c'était aussi une nouvelle manière de jouer. C'est un nouveau type d'acteur, Gabin.
Bien sûr, il avait un naturel qu'il n'y avait peut-être pas avant. C'est-à-dire qu'il commence dans les années 30 où donc le cinéma devient parlant, donc on cherche des nouvelles têtes, on cherche des voix, donc on fait venir des gens de théâtre. Et lui, il a fait du théâtre, comme vous disiez, mais un peu malgré lui. Mais il avait un naturel, une gouaille qui était un peu... Quand on regarde des films des années 30, parfois on voit des acteurs qui ont un jeu qui a très mal vieilli. Alors que lui, il est toujours le même, quoi. Et donc c'est vrai qu'il y avait ce sentiment que... même Belmondo, on disait que c'était une sorte de nouveau Gabin, et c'était... Belmondo, c'est Belmondo, mais c'était ça aussi, c'était vrai qu'il y avait ce naturel populaire, je dirais.
Mais si dès le départ, dans les années 30, comme vous le racontez, on remarque Jean Gabin, de la part des réalisateurs, mais aussi des critiques, c'est qu'il a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est bien ce sûr. Naturel, c'est aussi un physique, il a une présence à l'écran.
Ah bah c'est tout ça, en fait. C'est tout ça, plus, voilà, quand on devient une star du cinéma, c'est qu'on a un truc en plus. Mmh. On a toujours ce petit truc que d'autres comédiens n'ont pas et que le public remarque. Donc lui, il avait cette gouaille. Quand il faisait du théâtre, les critiques louaient sa nature comique. C'est pas quelque chose auquel on penserait tout de suite, mais il y avait ce côté un peu voilà gouailleur comme ça qui s'est retrouvé à l'écran dans des rôles pas forcément drôles. Même dans les films écrits par Audiard, c'était pas forcément des personnages rigolos. C'était ce qu'il faisait dire qui était drôle.
Alors Monstre Sacré, il l'est indéniablement aujourd'hui. Il l'a pas toujours été évidemment. À quel moment il est vraiment devenu à vos yeux ce Monstre Sacré? C'est quoi le tournant?
Bah, c'est-à-dire que comme il y a plusieurs périodes chez lui, il y a cette fameuse, il devient une grande star dans les années 30, après il y a cette traversée du désert. Je pense qu'à partir du moment où il revient vraiment en haut de l'affiche dans les années 50, là, il y a tout, il y a le nouveau Gabin, c'est-à-dire le côté patriarche, tout ça, et en même temps, on se rappelle de ce qu'il a été avant, donc c'est un ensemble. Là, il y a un passé, il y a un poids, en fait, on se rappelle de tous ses rôles quelque part parce qu'il peut faire aussi bien un clochard que le président du conseil, mais en même temps, on voit toujours Gabin, donc je pense qu'à ce moment-là, oui, ça devient un monstre sacré.
Alors, on l'a compris, Gabin ne rêvait pas d'être acteur à la base, son père l'était avant lui. Pourquoi Gabin était contre cette idée au départ? Justement parce que c'était le métier de son père? C'était en réaction à ça ou simplement
pas,
ça le faisait
forcément,
pas
forcément, mais en fait, quand il était gamin, son rêve c'était d'être conducteur de locomotive. Donc pour lui.
Il l'a fait
au cinéma. Mais pour lui, c'était plus impressionnant de voir un conducteur de locomotive qui faisait arriver le train à l'heure.
Oui, qu'un acteur.
En fait, c'était un métier difficile. Il voyait bien que son père répétait ses textes, qu'il s'entraînait devant la glace pour trouver la bonne mimique. Il avait l'impression qu'il souffrait. Il dit mais jamais je ferais ça quoi. Et puis il y avait ce côté, il trouvait que c'était un peu, quand il est dans les coulisses, il trouvait que c'était de la triche quoi, c'était du chiquet, il aimait bien les trucs vrais quoi. Et puis à partir du moment où son père l'a un peu forcé, comme il dit, je suis rentré dans ce métier à coup de pied aux fesses quoi.
Est-ce qu'il a quand même très vite aimé ce métier? Parce que nous c'est joli de raconter l'histoire que Gabin il voulait pas être acteur etc, mais en fait assez vite il va être piqué quand même.
Oui, bah quand il se retrouve à 15-16 ans au Folies Bergères et que il apprend en fait le métier de l'intérieur, il va aimer ce métier effectivement, il va voir comment ça se passe. Il va d'abord être figurant, et puis il va faire des pas de danse, et puis après un tour de chant, et puis ainsi de suite, et puis il va apprécier ça. Il va aussi beaucoup apprécier les danseuses dans les coulisses.
Ah oui, ça aussi, oui. Ouais.
Il pouvait s'habiller, se déshabiller sans problème, voilà, ça lui plaisait.
Mais vous le dites très justement, et vous rappeliez tout à l'heure, Mathieu, cette citation de Gabin, c'est du vent le cinéma, de l'illusion, des bulles, du bidon. C'est ce qu'il avait déclaré dans une interview à Paris Presse en janvier 1959. C'est assez une assez juste définition de ce qu'est le cinéma. C'est pas la vraie vie. En même temps,
c'est pas la
sublime.
Oui, c'est ça. Bon, après, je pense que c'était un peu une coquetterie de sa part. C'est-à-dire que bon, finalement, il a pas pu se passer du métier d'acteur à toute sa vie, quelque part. Mais c'est vrai qu'il avait ce côté aussi un peu vrai. Mais je pense que ce côté vrai, ce côté authentique qu'il revendiquait, c'est ce qui plaisait au public. On avait l'impression que ce qu'il était à l'écran, il était dans la vie. Ce qui était sans doute pas forcément le cas, vraiment.
C'était pas tout à fait le cas, parce qu'il avait ce côté terrien, quand même.
Bien sûr, il avait côté terrien. Mais après, on fantasme toujours l'idée que l'acteur qu'on voit à l'écran est vrai quoi, c'est comme Ventura, comme Belmondo, comme tout ça.
Non mais ce qui est vrai, c'est qu'ils ont l'air comme ça tout d'un bloc en fait.
Oui, c'est ça.
Cette génération aujourd'hui, au contraire, on essaie d'être protéiforme, les acteurs essaient de montrer plein de rôles différents. Là, on a l'impression que Ventura et Gabin, c'est des menhirs, des dolmens.
Oui, bien sûr, oui. Ils acceptent de faire que certaines choses, etc. Oui. C'est un peu des têtes de mule aussi quoi. Pas rien dire quoi.
Ils n'étaient pas commodes derrière sur les plateaux.
Pas toujours, oui, non, c'est sûr.
Prévert disait de Gabin que c'était un gentleman de la peuplerie. Un homme comme les autres, en quelque sorte, qui jouait des gens simples, des personnages simples. Mais est-ce qu'il avait su rester simple, d'après vous, dans la vie, Gabin? Aussi simple qu'il voulait bien le laisser croire. Parce qu'on a l'impression, évidemment, que c'est un type d'acteur qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. On dit souvent que les acteurs sont déconnectés quand ils ont du succès. Lui, il avait un succès immense et il avait l'air d'être monsieur tout le monde, entre guillemets, avec le charisme de Gabin en plus, quoi.
Oui, c'est ça. Après, fallait pas trop l'embêter, fallait pas trop venir le voir quand il était en train de manger, lui demander un autographe.
Ah oui, ça
n'y
était pas. Oui.
Non, ça n'était pas trop. Mais oui, je pense qu'effectivement, il voulait, quand il était hors des plateaux, il était chez lui en Normandie, il avait des bêtes, voilà, il faisait autre chose.
C'était comme vous, Stéphane.
Oui.
Il y a un parallèle quand même entre vos carrières d'acteur.
Je vous demande par respect pour Jean Gabin de ne certainement pas me comparer.
Respectons la mémoire de Jean Gabin,
s'il vous plaît.
Un truc aussi, c'est qu'il racontait jamais les faits héroïques qu'il avait accomplis pendant la guerre. C'était une forme d'humilité qu'il avait. Enfin, d'autres, ce serait peut-être un peu vanté. Lui, il n'en parlait jamais.
Non, il n'en parlait jamais, non. Effectivement, il y a une sorte de pudeur chez Gabin, oui.
Mais c'est générationnel ou c'est Gabin
Tout le monde n'a pas fait ce qu'il a fait non plus, hein. Donc, il a quand même, comme vous le racontiez tout à l'heure, son parcours pendant la guerre est assez exceptionnel. Donc, peut-être que, en tout cas, tous les acteurs de cette époque-là ne pouvaient pas forcément s'inventer.
Certains sont allés jouer en Allemagne. Oui. Lorsqu'il revient au cinéma après la Seconde Guerre mondiale, sa carrière piétine. Il y a un creux dans sa carrière. Et il se fait rattraper par d'autres vedettes. Je parlais d'Yves Montand. Et c'est Michel Audiard qui donne, selon vous, un second souffle à sa carrière. Comment s'est passée la rencontre?
En fait, c'est Gilles Grangier, le réalisateur, qui connaissait les deux et qui s'est dit, mais ces deux-là, il faut qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils travaillent ensemble. Donc, c'était un film qui s'appelait Gasoil en 1955, où il faisait le rôle d'un routier qui était poursuivi par des gangsters. Et en fait, Grangier a dit à Gabin, écoute, il faut vous travailler ensemble. Et Gabin a dit, bon, oui, on va voir. Il n'a pas à dire, bon, ok, d'accord, on va voir. Et puis, donc, Audiard, qui adorait Gabin mais qui l'avait jamais rencontré, écrit les dialogues, et un jour ils se rencontrent tous, ils sont tous dans un restaurant de fruits de mer, et puis il y a Gabin qui mange ses moules, et puis tout d'un coup Gabin dit ouais, ça pousse pas un train de marchandises. Alors, Audiard pense qu'il parle des moules, et en fait, il parlait des dialogues de ces dialogues. Parce qu'en fait, il avait un langage très imagé, Gabin, et ce qui a plu énormément à Audiard. Donc, ça pousse pas un train marchandise, c'est-à-dire c'est pas mal, quoi. Il disait jamais, c'est mauvais, il disait, ça vaut pas un coup de cidre.
Voilà. C'est mieux.
Voilà. Et Audiard, quand il a vu ça, il s'est dit, tiens, mais je vais faire parler ce gars-là, il prenait des choses de Gabin énormément, pour Gabin, mais aussi pour d'autres d'ailleurs, et donc il savait comment le faire parler.
Dans votre livre, vous revenez aussi sur la relation qu'entretenait Gabin et Lino Ventura, notamment le fait que Gabin avait pris un peu Ventura sous son aile et qu'il cherchait à le caser, à le faire tourner. Finalement, est-ce qu'il a convaincu un homme qui lui non plus voulait pas au départ être comédien, en tout cas qui brûlait pas d'envie?
Ah, il voulait pas du tout être comédien. Ventura, il était catcheur. Ensuite, il a organisé des matchs de catch. Et quand on l'a fait venir pour toucher pas au Grisby, c'était pas Gabin qui l'a fait venir, mais c'était Jacques Becker, c'était les assistants. Il y allait reculons, quoi. Pour lui, il aimait beaucoup Gabin en tant que spectateur. Et puis, ça s'est très bien passé. Il est devenu ami avec Gabin, mais pour lui, c'était fini. Et Gabin lui dit, mais il l'a fait revenir sur des petits rôles dans les polars, dans le Rasier sur la ch'touffe, dans le Rouge et demi, tout ça. Donc, ça, il prenait goût. Et finalement, il est devenu comédien comme ça. Et c'est Gabin qui a fait de lui une vedette parce qu'on cherchait quelqu'un pour jouer le rôle du gorille, qui était un personnage d'agent secret très populaire de la série noire. Et on trouvait que des armoires à glace qui savaient pas jouer. Et Gabin a dit au producteur, mais pourquoi vous prenez pas Lino? Et donc, ils ont pris Lino Ventura, il est devenu une vedette. Et après, il a fait beaucoup d'autres choses. C'était grâce à Gabin.
On le disait, on commémore aujourd'hui les 45 ans de sa disparition. Comment vous expliquez que Jean Gabin reste l'un des comédiens préférés des Français encore aujourd'hui?
C'est vrai, pourquoi lui et pas d'autres. C'est vrai que je pense que ce qu'on disait, c'est qu'il avait une certaine authenticité aussi. Je pense que ça joue beaucoup, quoi. On a l'impression que c'était pas du chiqué, quoi. Enfin, c'était vraiment lui.
Il est comme nous au fond.
Voilà.
Oui, c'est nous,
avec un petit truc en plus.
Avec
un petit truc en plus. Et puis il y avait aussi tous les dialoguistes avec qui il a pu travailler, Janson, Prévert, Audiard.
Il entraîne avec lui tout un univers incroyable.
Bien sûr.
En tout cas, merci Philippe Lombard d'avoir rembobiné avec nous la vie extraordinaire de Jean Gabin. Je rappelle votre dernier livre, richement documenté, Les grandes gueules du cinéma français, quand Gabin, Ventura, Belmondo et Delon régnaient sur grand écran. C'est paru aux éditions Hugo Doc. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci à vous, merci.
Ici Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Tous les jours des 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et de secret, il est question, Clémentine, aujourd'hui, parce que vous nous racontez un couple qui n'était pas vraiment un couple comme les autres, Georges Sand et Chopin.
Eh oui, une belle histoire d'amour. Enfin, c'est ce qu'on dit toujours. Et en fait, la vérité est un petit peu plus mélancolique. Alors, Georges Sand a 32 ans. Et elle est déjà un écrivain reconnu lorsqu'elle rencontre Chopin en 1836 par l'entremise de Liszt et Marie Dagout. Et elle sort tout juste, alors là, pour le coup, d'une relation absolument passionnelle et torride avec Alfred de Musset. Musset. Oui. Chopin, au même moment, a 25 ans. Hein, il est plus, il a 7 ans de moins qu'elle. Et il est connu aussi, il a déjà écrit ses œuvres les plus célèbres. Il est fiancé à une amie d'enfance qui s'appelle Marie Wodzinska. Et quand il rencontre Georges Sand pour la première fois, il n'est pas du tout emballé. Il confie à un ami quelle est cette femme, quelle femme antipathique cette Sand. Est-ce vraiment d'ailleurs bien une femme? Je suis prêt à en douter. Donc ça ne place pas cette relation sous des auspices très favorables. Mais Georges Sand, elle est enthousiaste. Alors, est-ce qu'elle aurait été enthousiaste si elle n'avait pas entendu Chopin au piano? Parce que je pense que l'entendre jouer devait absolument emporter n'importe qui. Et donc, elle est absolument emballée. Et sa copine, Marie Dagou, essaye de la dégoûter. Hein. Elle lui dit, ce Chopin, vous savez, c'est un homme irrésistible, mais irrésolu. Il n'y a de permanent chez lui que sa toux. Alors, vraiment, elle ne lui vend pas le bonhomme. Hein. Mais comme les parents de Marie Wodzinska ont rompu les fiançailles de leur fille avec Chopin, bah, la voie est libre pour George Sand. On ne sait rien des sentiments de Chopin pour elle, car il ne reste de leur correspondance que 17 lettres. Elle a quasiment tout détruit, George Sand. Mais dans ces quelques lettres qui nous sont parvenues, on ne trouve pas un mot d'amour. Alors qu'en amitié, Chopin sait dire « je t'aime ». Il le dit à ses amis au début, à la fin de chaque lettre. Il peut l'écrire deux fois, trois fois, puis ajouter « aime-moi » à la fin de ses lettres. Rien de tout ça dans les lettres qui nous restent à Georges Sand. Les lettres de Chopin, adressées à ses amis Fontane et Grimala, commencent toutes par « mon chéri, mon âme bien-aimée, ma vie ». Ce qui est très fort. Donc il sait parler d'amour, Chopin. Quand ils sont à Majorque, ils sont dans un ancien couvent, ils font chambre, ou plutôt cellule à part. Lui commence à être vraiment malade. Et dans ses lettres, elle ne l'appelle pas « mon amour » ou un autre mot doux de ce genre-là, mais d'un maternel « mon petit »,« le petit »,« notre petit », ou même « chip », ou encore « chip, chip ». Ah bah c'est sexy, hein. Dans les années qui suivent, elle publie un livre intitulé « Lucrezia Floriani », dans lequel elle dresse le portrait d'un musicien qui, à l'évidence, est Chopin. Et dans ce livre, le musicien est décrit comme aigre jusqu'à la méchanceté, austère, chagrin, tracassier, ennuyeux. Voilà la façon dont elle envisage l'homme avec lequel elle vit. Et dès lors, la question se pose, la rupture qui s'annonce entre les deux amants, est-elle vraiment une rupture ? Georges Sand, qui durant 7 ans ne s'était pas exprimé sur l'intimité de leur liaison, va, comme on dit, lâcher le morceau. « Voilà 7 ans, dit-elle en 1846, que je vis comme une vierge avec lui et tous les autres. » Le trait est venimeux. Que vient faire cette mention de tous les autres dans cette affaire ? Quoi qu'il en soit, en juillet 1849, quand Chopin commence une longue agonie, Georges Sand se refuse à le voir. Les proches de Chopin la supplient, elle ne veut rien entendre, elle s'obstine. Et le 17 octobre au soir, Chopin rend l'âme entourée de tous ses amis, sauf elle. Alors ces deux-là, se sont-ils jamais vraiment aimés ? La question est d'autant plus brûlante à la lumière de la récente polémique qui a surgi en plein confinement en 2020. Polémique reprise dans le Nouvel Obs, Causeur, Têtu. C'est un journaliste suisse, Maurice Weber, qui a passé au peigne fin les lettres de Chopin. Il affirme avoir découvert, je cite, « un flot de déclarations d'amour adressées à des hommes, frôlant parfois l'érotisme ». Le journaliste revient sur plusieurs de ses correspondances dans lesquelles Chopin décrit les rumeurs de ses aventures avec des femmes comme, je cite là à nouveau, c'est Chopin, un voile pour sentiments cachés. Voilà ce qu'il écrit dans l'une de ses 22 lettres à l'un de ses amis, le compositeur Titus Wojciechowski. Vous n'aimez pas être embrassé? S'il vous plaît, laissez-moi le faire aujourd'hui. Vous devez payer pour le rêve salace que j'ai fait à votre égard la nuit dernière. Ces lettres commencent très souvent par « ma chère vie » et se concluent par « donnez-moi un baiser, mon très cher amant ». Selon le journal Le Guardian, les biographes et archivistes auraient délibérément fermé les yeux sur les lettres homo-érotiques du compositeur durant des siècles pour rendre l'icône nationale polonaise conforme aux normes conservatrices. Les lettres d'amour enflammées du pianiste Frédéric Chopin à des hommes sortent des tiroirs. C'était Ebody, le magazine Têtu en guise de titre. Le journal émet l'hypothèse que sa passion supposée avec l'autrice féministe et très probablement bisexuelle Georges Sand pourrait dès lors n'avoir été qu'une façade. Et c'est un débat absolument brûlant, vous pensez bien, parce que le gouvernement polonais actuel est résolument anti-gay. Ah oui. Donc, à suivre. À suivre la belle histoire d'amour, mais
Chopin
avec qui
en était. Eh ben dis donc.
On en apprend tous les jours, Stéphane. Les
Je tombe de ma chaise.
Je ne fais que citer.
Oui. Enfin, eux, elles se mouillent pas. Merci Clémentine.
On a appris.
Oui. Et pouvoir aller à Varsovie tranquille.
Pour en savoir plus encore sur Georges Sand et Frédéric Chopin, vous racontez toute leur histoire dans votre podcast Au cœur de l'histoire, disponible sur votre appli de podcast préféré et sur le site europe1.fr. Et là, vous dévoilerez tout.
Je dévoile ce qui a été publié. Hein. Vous savez, moi, je suis pas romancier.
Vous dévoilez tout.
Je vous dis tout. Sur les nuits torrides dans un couvent de ces amants. Exactement. Qui faisaient chambre à part.
Ah, oh, les coquinous. Et vous restez avec nous surtout pour le quiz. Là aussi, on va apprendre des choses. Vous allez voir, ça va être fabuleux. À tout de suite.
Historiquement vôtre.
Face à l'injustice et aux tricheries répétées, la malheureuse Clémentine est souvent à court d'arguments pour dire son agacement. Alors, elle dit juste...
Ouais, attends,
jouons. Jouons à Bernd Toubiala. Et aujourd'hui, vous allez voir, on va apprendre des trucs assez incroyables. Connaissez-vous Soleil, Lune et Thalie, écrit par Giambattista Basile, Stéphane? Vous connaissez pas? Eh bien, figurez-vous que c'est le conte qui a inspiré La Belle au bois dormant, popularisé par Charles Perrault.
Ah, voilà.
Dans cette première mouture, donc, ce n'est pas un baiser qui réveille la princesse, mais carrément un acte sexuel non consenti car elle dormait. Vrai ou faux?
Ah non, ça, je peux pas le croire.
Vous adoriez La Belle au bois dormant.
Non, je peux pas le croire. D'autant qu'en ce moment, il y a cette polémique, justement, sur le baiser est considéré comme un acte, délictuel, dans la mesure où il n'est pas consenti. Oui. Non, je...
Oui, bon, enfin, en même temps, c'était là. Ça ou dormir 100 ans de plus, hein.
on veut réécrire dans certains pays, on veut réécrire le conte de Perrault, oui.
Alors vous répondez.
Donc, vous imaginez, je dis non.
Vous avez...
Et oui, comme quoi on a vraiment changé d'époque, Stéphane. Je vous le révèle.
Oh,
c'est effectivement la véritable version du conte La Belle au bois dormant. Je cite. À sa vue, le prince en tombe amoureux, la porta sur un lit où il cueillit les doux fruits de l'amour. Si vous avez un doute sur le sens de l'expression, toujours dans l'histoire, 9 mois plus tard, la princesse, toujours endormie, accouche d'un garçon et d'une fille. Et quand l'un d'entre l'un d'entre eux veut téter, ils sucent le doigt de leur mère, enlevant ainsi l'écharde qui avait jeté le sort. Elle se réveille enfin. Ce n'est pas un baiser.
Ah, c'est l'amour maternel qui la réveille.
Oui, voilà, d'une certaine manière.
On la viole d'abord, mais après, l'amour maternel triomphe.
C'est une belle histoire. Heureusement que Charles Perrault a eu le bon goût d'aseptiser un peu tout ça. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Si deux personnes s'aiment, il ne peut pas y avoir de fin heureuse. Amer constat, signé Ernest Hemingway. Il a eu 4 épouses, dont une se prénommait Zelda. C'est en son hommage qu'un Japonais va baptiser sa princesse Zelda dans le célèbre jeu vidéo auquel vous avez joué toute votre adolescence. Vrai ou faux?
Bon, bien sûr. Je dirais que c'est vrai, parce que comme j'y ai beaucoup joué, vous en doutez, je m'en souviens très bien.
Vous avez...
Et c'est une excellente mauvaise réponse, puisque c'était un piège. C'est un hommage à Zelda Fitzgerald, romancière, épouse égérie de Francis Scott Fitzgerald.
Oh, bah, mais vous n'avez plus quoi faire pour me coincer.
Ce qui est honteux, je vais vous le dire, et Stéphane aussi, ce qui est honteux, c'est de confondre Fitzgerald et Hemingway. Hein, ça, c'est une vision de la littérature américaine qui est quand même un petit peu... brouillonne. C'est brouillon, tout ça. Voilà. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Il ne faisait pas bon être curé à la Révolution. C'était la déchristianisation de la France, vous le savez. Un arrêté de Joseph Fouché, en novembre 1793, demandait expressément à ce que les ecclésiastiques aient des relations sexuelles. Vrai ou faux, Stéphane? Dans la Révolution, t'es que pas.
Non, je peux pas croire ça.
Allez, l'abbé.
Non, on l'aura... Franchement, ils ont été obligés de signer la Constitution civile du clergé. Ils ont... Ceux qui les réfractaires, on sait ce qui leur arrivait. Et les autres étaient eux,
mais je pense, Stéphane, que ça, en fait, le truc, ça doit être que on leur indiquait que en signant, en adhérant à la Constitution civile du clergé, ils abandonnaient aussi tous leurs vœux.
Oui.
Donc on les libérait de leurs vœux.
On les libérait, mais de là,
ce qui
les
veut dire
obligés.
Qu'il faut, mais là, les obliger d'aller.
Ce que vous dites, Mathieu, c'est qu'on les obligeait à avoir des relations sexuelles.
Où on leur conseillait d'en avoir, on les encourageait.
Question, on leur demandait expressément.
Oui, donc on les obligeait.
Avoir des relations sexuelles.
Non.
C'est ma question.
Non. Mais...
Non, ça, on ne peut pas obliger des gens. Obliger non.
Vous avez.
Regardez, frétille.
Non. Je ne frétille pas.
Ah, bon.
Vous portez des accusations mensongères immondes sur mon compte, moi qui ne suis qu'amour. C'est une bonne réponse, Stéphane.
Merci.
Non, mais la loi de Brumaire en 2 les obligeait, les curés, à se marier. Le saviez-vous, ça?
Oui.
À se marier, étaient exemptés de prison ou de déportation les prêtres mariés. Dans les archives du pape, on a retrouvé par la suite une pétition de 3715 prêtres mariés qui ont demandé l'absolution pontificale.
Mais vous savez, jusqu'au XIe siècle, les prêtres étaient mariés. L'Église a interdit le mariage des prêtres parce qu'ils voyaient que, au fond, les biens de l'Église disparaissaient puisqu'il fallait mourir.
C'était une question pécuniaire, plus que morale.
C'était une question pécuniaire. Mais aujourd'hui, évidemment, ça serait peut-être la solution, c'est de leur proposer de se remarier.
Ben oui, mais
entre eux, ou je sais pas.
Entre eux, oui, je ne sais pas. Ouais, Stéphane, vous lancez comme ça des pistes, mais vous parlerez à Emmanuel. Question numéro 4.
Il n'est pas pape.
Oh, oui.
Non, je sais que pour vous, c'est le pape, mais moi, c'est le pape François.
Vous en parlera François aussi. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. 13 janvier 1898, c'est la publication du célèbre J'accuse de Zola dans le journal L'Aurore. Juste après les deux mots de J'accuse, il y a 3 points de suspension et 1 point d'exclamation. Un journal antisémite va se créer dans la foulée pour répondre à Zola, dont le titre a également 3 points de suspension et 1 point d'exclamation. Quel est ce titre? 3 propositions. Pff, pst, chut. Pff, pst, ou chute.
Moi, je préfère le premier.
Et donc PFF ou ouais. PSST ou chute.
Pff, c'est plus méprisant.
D'après vous, répondez.
Le premier. Pff. Non. Pff.
Vous avez encore perdu.
J'ai perdu alors que j'ai essayé un petit peu de vous ramener vers la bonne. C'était pst. PSST, 3 petits points, point d'exclamation. Il contient des caricatures et dessins anti-Dreyfusard. Il cessera sa parution l'année suivante. C'était une question sur Zola. C'était un hasard absolu, mais ça me permet opportunément de vous inviter à regarder ce soir Stéphane Bern sur France 3 pour un secret d'histoire inédit consacré à Mimille. Je ne sais pas si Stéphane, vous vous regarderez, mais moi, je vous regarderai.
C'est plutôt Émile Zola qu'il faut regarder, moi.
Si on vous voit, vous ouvrez les portes.
Oui, je vous ouvre les portes et je raconte une histoire, mais ce qui est important, évidemment, c'est...
Évidemment. Vous mettez en valeur Émile Zola.
Bon, ben j'ai perdu les cocos, hein.
Ah oui, c'est une défaite. C'est une défaite. Je suis tellement plus habitué à ce que Stéphane gagne. Je m'apprêtais, je me lançais sur la question 5.
Mais quelle perfidie.
C'est pas une question animalière qui vous aurait servi.
Oh, c'est dommage, vous pouvez la garder pour la prochaine fois.
Ben, je la garde pour une prochaine fois.
Remisez-la par devers vous.
Belle victoire de Stéphane, qu'on retrouve donc ce soir dans Secret d'Histoire.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, ce qui est quand même sacrément judicieux, car personnellement, je ne connais pas d'autres émissions aussi qualitatives, à part celle de Christophe Ondelat avant nous et celle de Laurence Ferrari après nous.
Moi non plus, Mathieu. Non. Même si je me méfie toujours de ce que vous dites, après tout, vous êtes un vrai comédien aussi.
Si peu, Stéphane, si peu. Nos personnages du jour, eux, en revanche, sont de vrais comédiens qui, pourtant, ne souhaitaient pas le devenir.
Oui, des comédiens malgré eux. Après Jean Gabin, qui ne voulait pas être comédien et reste encore aujourd'hui pourtant l'un des préférés des Français, je vous raconte la jeune Alice Ozzy, qui, dès les années 1830 est montée sur les planches et a enflammé le théâtre français. Et le cœur de nombreux hommes aussi, ça vous verrez. Et vous Mathieu, vous nous racontez l'histoire d'Omar Sy, devenu comédien un peu par hasard.
Oui, vous l'avez évidemment adoré dans Intouchables, ce film dans lequel il incarne un auxiliaire de vie auprès d'un monsieur très riche mais impotent, inspiré de notre duo avec Stéphane. Eh bien, figurez-vous qu'Omar Sy n'avait pas prévu du tout de devenir une star de cinéma. Trajectoire exactement inverse à celle de David Castello Lopez, qui lui avait prévu de devenir une star de cinéma, mais ça tarde un peu à venir, Musclor. Hein, qu'est-ce qui se passe?
Exactement. Bah oui, en hommage à ça, je vais parler de Musclor, effectivement, qui était cette ligne de jouet, ce monsieur extrêmement musclé en plastique que j'avais quand j'étais tout petit. Vous l'avez eu aussi. Très courte période au début des années 80. D'où vient Musclor, je vous dire.
C'était un dessin animé directement aussi. Inspiré de moi.
Alors, justement, avec nous également Olivier Pouls, qui évidemment est gonflé à la tarte au sucre.
Alors ça gonfle différentes parties du corps.
Ouais,
c'est intéressant aussi. Je vais vous raconter l'histoire de cette spécialité du nord de la France, liée évidemment à l'industrie sucrière.
Bien sûr.
Enfin Stéphane, c'est votre petit kiff quotidien, le moment où vous nous humiliez au tour de rôle. C'est la lutte finale, ce quiz vicieux, durant lequel résonne votre rire qui ne l'est pas moins. En attendant, découvrons notre deuxième personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle est montée sur scène et en a aussi fait de nombreux à ses amoureux qui se sont succédés à ses côtés. Parmi eux, l'un des premiers lui a donné envie de jouer la comédie comme lui, un métier qu'elle ne voulait pourtant pas faire jusqu'ici. Stéphane Bern nous raconte la comédienne malgré elle, Alice Ozzy.
L'histoire d'Alice Ozzy se confond largement avec celle du 19e siècle, puisqu'elle naît en 1820 d'une mère actrice et d'un père fabricant de bijoux, qu'elle connaîtra peu, voire pas du tout, puisque le couple se sépare quelques semaines après sa naissance. Son père ayant la goujaterie de ne jamais verser à son ancienne épouse Charlotte la pension alimentaire qu'il lui doit, la petite Alice, Julie Justine Pilois, de son nom de baptême, connaît quelques années un brin chaotique ballotté de ville en ville au gré des cachets de sa mère. Une vie d'enfant de la balle, mais une vie incertaine qui explique peut-être que la gamine ne cherche pas du tout à marcher dans les pas de sa mère, bien au contraire. Toute jeune encore, Julie Justine est placée comme apprentie brodeuse dans une maison parisienne prestigieuse. Mais le patron est hélas un dépravé aux mains baladeuses. Julie se réfugie à Lyon, dans une autre maison, avant de regagner Paris à 16 ans. Mais elle quitte vite l'appartement de sa mère, déjà soucieuse de son indépendance. C'est là qu'elle fait la rencontre qui va changer sa vie, celle d'un jeune comédien de 22 ans, Édouard Brindeau. Le jeune homme a du talent et comme il n'a pas non plus les yeux dans sa poche, il tombe amoureux de Julie, devenue une authentique beauté. Brindeau, qui finira la Comédie Française, devient le premier amant mais aussi le premier professeur de théâtre de Julie, qui choisit comme nom de scène le nom de jeune fille de sa mère, complété d'un prénom qu'elle aime, Alice. Adieu Julie Justine, Alice aussi est prête à conquérir Paris, poussée par un Brindeau ravi de jouer les Pygmalions. C'est lui qui lui apprend les ficelles du métier et les bases du jeu. C'est encore lui qui la met en contact avec ceux qui comptent. Alice commence par jouer les utilités, ces petits rôles sans importance qui permettent tout de même de se montrer avant de se lancer dans le grand bain en décrochant l'un des rôles principaux dans un vaudeville qu'on donne au Théâtre du Palais Royal en 1837. La jeune comédienne se révèle douée et commence à se tailler un joli succès au début des années 1840. Le public est séduit par son naturel, son assurance et la douce ironie qu'elle ajoute à son jeu par petites touches. Sa candeur teintée d'un remarquable sens de la répartie séduit le public. Sa beauté fait le reste. Élancée et souriante, la jeune femme fait fondre les cœurs avec ses grands yeux et ses superbes cheveux noirs. Début 1841, Alice aussi se partage désormais entre deux amants. Le baron Bazancourt et un jeune aristocrate polonais, Wielopolski. Ce curieux arrangement ne dure pas. Wielopolski meurt jeune et lègue à Alice la somme rondelette de 80 000 francs. De quoi s'assurer une indépendance précieuse à une époque où bien des comédiennes se voient contraintes d'être entretenues par des amants fortunés. Libre de toute attache, Alice mène sa vie amoureuse comme elle l'entend, avec quelques figures de premier plan à son tableau de chasse, à commencer par le duc d'Aumale, l'un des enfants de Louis-Philippe, dont elle est le premier grand amour. Plus tard, une fois leur inévitable rupture consommée, Alice lui renvoie ses lettres sans rien demander en échange. Quand le jeune prince pense la remercier en lui envoyant 2000 francs, elle les lui renvoie accompagnée d'un mot blessé. « Je ne suis pas dans la misère, j'aurais préféré un souvenir. » Cette dignité sourcilleuse et ce caractère entier seront toujours sa marque, sur les planches comme dans sa vie privée, toujours agitée. La beauté d'Alice est légendaire et Théophile Gautier, qui fut à la fois son amant, son ami et son conseiller, a eu du mal à s'en remettre. À en croire certains vers un tantinet exalté lorsqu'il évoque sa peau dorée de reflets blonds comme le cou de Cérès après la moisson, parsemé de grains de beauté que l'écrivain s'amuse à compter. Mais moi, sur ton beau flanc que nuages t'évoilent, j'ai dans un ciel de lait trouvé deux astres noirs. À la fin des années 1840, Alice est au sommet de sa carrière. Elle joue sur les scènes parisiennes, mais aussi à l'étranger, à Londres et à Baden, avant de retrouver le théâtre du Palais Royal. C'est pourtant le temps des premières attaques dans les journaux, parfois d'une violence qui ne brille pas par son élégance, comme lorsqu'un plumitif du journal des théâtres écrit ceci. Autrefois, Mademoiselle Ozy pouvait compter sur une espèce de gentillesse pour obtenir quelques succès. Aujourd'hui, elle paraît au public d'une maturité prématurée. Son dos s'arrondit, son œil s'éteint, et nous craignons bien qu'autour, une petite patte d'oie ne vienne considérablement la vieillir avant l'an prochain. Bon, on a déjà vu plus raffiné. Oui. D'autant que la beauté d'Alice est intacte au point de taper dans l'œil de Gustave Doré, ou de Victor Hugo lui-même, qui la poursuit de ses appétits à l'été 1847. Agacée par les avances explicites du poète, la comédienne lui préfère son propre fils, Charles Hugo, 20 ans tout juste. L'affaire ne durera pas. Alice s'agaçant vite des lamentations de Charles, qui va jusqu'à dormir sur son palier pour lui prouver son amour. Ça ne lui vaudra que ce commentaire cruel « Tiens, un nouveau paillasson ». En 1849, elle se lance dans une idylle avec un peintre réputé, Chassériau, qui immortalise alors des courbes qu'on peut toujours admirer sur un tableau aujourd'hui exposé à Avignon, « La nymphe endormie ». Quand elle ne pose pas pour lui dans son atelier de la butte Montmartre, le couple passe pourtant son temps à se chicaner, passant de la passion à la colère et se quittant sans cesse, pour mieux se retrouver. Excédé par l'insistance d'Alice qui tient absolument à se faire offrir une copie d'un Gréco, Chassériau finit par lacérer sa peinture au couteau dans une crise qui met fin à l'aventure entre le peintre et la comédienne. Alice continue de jouer avec succès, parfois aux côtés d'immenses figures comme Frédéric Lemaître, avant de se décider à quitter la scène en pleine gloire en 1855. À 35 ans, elle reprend son nom véritable de Julie Pillois et se lance dans les affaires. Maligne et toujours aussi avisée, l'ancienne comédienne boursicote investit jusqu'à se tailler une jolie fortune. Mais elle passe surtout la moitié de son existence à s'ennuyer, à mourir loin des planches, aussi riche que mélancolique et isolée. Elle meurt chez elle, boulevard Haussmann, en 1893, sans laisser ni mari ni enfant, après avoir laissé toute sa fortune à la Société de Secours Mutuel des Arts Dramatiques, une société fondée en 1840 par le baron Taylor pour soutenir les artistes, même ceux comme elle qui ne voulaient pas forcément en être.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Alice Ozy, nous sommes avec l'historien Jean-Claude Yon. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Bonjour Jean-Claude Yon, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et spécialiste de l'histoire des spectacles au XIXe siècle et l'auteur d'une histoire du théâtre à Paris de la Révolution à la Grande Guerre parue aux éditions Aubier. La carrière d'Alice Ozy s'étale des années 1830 aux années 1850. À cette époque-là, à quoi ressemble le théâtre en France? Quel est le genre théâtral et dans quel genre s'inscrit-elle elle-même?
Alors déjà, il faut savoir que le théâtre du 19e siècle n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle théâtre à notre époque, dans le sens où c'est vraiment un média de masse. Il faudrait plutôt comparer à la télévision ou à la radio, qui accompagne les gens. Donc il y a une production théâtrale absolument immense. La production théâtrale à Paris au 19e siècle, c'est 32 000 pièces. 32 000, c'est-à-dire pratiquement une création par jour. Donc c'est vraiment un flot continu, et les gens vont au théâtre comme on allume la télé ou on allume la radio de nos jours, ou on regarde sur Internet, et en l'occurrence, les gens y vont avant tout pour se divertir, de sorte que le vaudeville est vraiment le genre favori, et c'est d'ailleurs dans ce genre que Alice Ozy va surtout s'illustrer.
Alors, Stéphane l'a raconté, Alice Ozy était romantique, il racontait Stéphane que c'est par amour qu'elle se lance dans une carrière d'actrice, pour plaire à son amant, alors qu'au départ, elle refusait de suivre les pas de sa mère, comédienne elle aussi. Elle a eu raison d'aller contre son envie initiale, finalement ?
Elle était un petit peu forcée parce qu'au départ, elle a tenté de travailler dans le milieu de la broderie, mais elle a été violée par un de ses patrons. Donc en fait, avec ce viol, elle ne pouvait plus se marier. Et pour ne pas être déclassée, à l'époque, le théâtre est la seule voie pour pouvoir se faire une place dans la société.
Elle a montré qu'elle était bonne comédienne, j'imagine. Elle a été aidée par Brindeau, je le racontais. Mais quelles étaient les caractéristiques d'une bonne comédienne à l'époque? Comment fallait-il jouer? On sait que on pose sa voix différemment aujourd'hui. À l'époque, peut-être clamait-on davantage?
Alors à l'époque, il n'y a pas de micro, et puis le public est beaucoup plus bruyant, il faut vraiment s'imposer, et souvent, si on veut comprendre ce qu'est un public de théâtre au 19e siècle, il faut plutôt imaginer un public de stade de foot de nos jours, donc les salles sont très agitées. Il ne faut pas oublier non plus que la lumière reste allumée dans la salle pendant tout le spectacle, donc vraiment les acteurs doivent chercher à attirer l'attention du public, et donc la voix est un élément essentiel, et que les carrières sont assez courtes, parce qu'effectivement, ils finissent par perdre leur voix. Et puis, ce qui compte aussi énormément, c'est la présence physique, le charisme. Et c'est sûr que Alice Ozy, qui de nos jours a peut-être plutôt fait une carrière de mannequin que vraiment d'actrice, est une très belle femme qui sait capter l'attention du public.
Et dans quel type de pièce elle jouait, Alice Ozy? Quel rôle elle avait?
Alors, elle était surtout très bonne dans des rôles de soubrette, avec un regard fripon, une façon sans doute de lancer peut-être des œillères au public, mais voilà, c'est la jeune femme piquante, et puis c'est vraiment la figure de la jeune femme. Théodore de Banville disait que c'était le symbole du printemps, donc c'est vraiment une beauté fraîche qui joue ses rôles de parisienne, finalement, de femme piquante.
Mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle est courtisée de toutes parts, cette Alice Ozy, et pas uniquement sur scène. Visiblement, elle attirait les hommes de la haute société, mais tout le Paris intellectuel du 19e, de Théophile Gautier à Victor Hugo. Elle faisait tout pour se faire remarquer. Elle avait un côté courtisane ou elle subissait les assauts des autres?
Alors je pense qu'elle subissait, mais qu'en même temps, elle sélectionnait ses amants de façon assez habile. Et d'une certaine façon, parce qu'au 19e siècle, il y a toujours cette ambivalence entre la courtisane et la comédienne, Alice Ozy, finalement, a beaucoup plus réussi sa carrière de courtisane que sa carrière de comédienne. Et c'est vrai que, vous l'avez un peu rappelé dans le récit, elle a un palmarès, si je puis dire, assez formidable, avec aussi bien des hommes politiques. D'ailleurs, elle est complètement œcuménique, parce qu'il y a le duc d'Aumale, mais il y a aussi Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, donc des chanciers, notamment le fils du banquier Perregaux qui va la quitter pour Marie Duplessis, la fameuse dame aux camélias, des gens de lettres, Théophile Gautier, Hugo, il n'a pas réussi, c'est son fils qui l'a devancé, Charles Hugo, et puis les peintres, Chassaillot, Gustave Doré, donc vraiment, j'allais dire, un tableau de chasse assez incroyable.
Et dans votre livre, vous écrivez que pour certaines femmes, se faire voir sur scène est un moyen de progresser dans une autre carrière. La prostitution. Les comédiennes, à l'époque, elles étaient considérées comme des femmes de petite vertu. La profession était toujours pas respectée?
Alors non, pas du tout. Il faudra attendre vraiment la fin du siècle pour qu'on puisse considérer qu'une actrice puisse être une femme respectable. La première femme à avoir la Légion d'honneur en tant qu'artiste, c'est Julia Bartet en 1905. Donc ça a été un long chemin et c'est vrai que pour comprendre ce rapport entre femme galante et femme et actrice, il faut se rappeler d'une chose qui est méconnue, à savoir que au 19e siècle, les acteurs doivent acheter leurs costumes eux-mêmes, sauf quand c'est une pièce historique. Et donc pour une femme, notamment quand elle veut jouer dans une pièce en plusieurs actes, avoir plusieurs robes, ça coûte très cher et les appointements ne permettent absolument pas de se payer ses costumes. Donc il faut un protecteur pour pouvoir avoir les costumes qui vous permettent de vous imposer sur scène.
Ah ben voilà une information que nous n'avions pas. Non. Je ne pensais pas qu'il fallait acheter des costumes. Alice Ozy est issue des critiques, non pas sur son jeu, mais sur son physique, entre guillemets, vieillissant. Alors qu'au fond, elle quittera les planches à 35 ans seulement. À cette époque, les actrices étaient déjà jugées plus sur leur physique que sur leur jeu. Et est-ce qu'elles avaient toutes des carrières aussi courtes que celle-là?
C'est très compliqué de rester sur scène et elle notamment, elle ne pouvait être vraiment une grande actrice qu'en étant jeune et c'est elle-même d'ailleurs qui a arrêté sa carrière avec beaucoup de sagesse parce qu'il faut dire que c'est quelqu'un qui a su gérer sa vie et sa fortune avec une très grande intelligence.
Mmh. Mais merci beaucoup Jean-Claude Dion pour nous avoir vraiment éclairé, vous savez tout sur le théâtre de cette époque. Je rappelle le titre de votre livre, Une histoire du théâtre à Paris, de la Révolution à la Grande Guerre, qui est paru aux éditions Oubliez. Merci à vous.
Merci à vous.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on réunit trois comédiens malgré eux. Après Jean Gabin et Alice Ozy, vous nous révélez Mathieu Comarcy non plus. Ne se destinait pas du tout à être comédien.
C'est amusant pour moi de vous parler d'Omar Sy, car vous ne le savez peut-être pas, mais Omar Sy est mon meilleur ami. Bon, notez, il ne le sait pas non plus. C'est une amitié unilatérale, mais belle quand même. En fait, Omar Sy est devenu en quelques années notre meilleur ami à tous, pas vrai David?
J'ai fait la queue avec lui un jour à la pharmacie de garde de la place de Clichy.
Mais bien sûr. Chose inouïe, les Français le trouvent encore plus sympa que Stéphane Bern, et pour être plus sympa que Stéphane, il faut quand même y aller. On vous retrouve au coude à coude dans deux classements, Stéphane, où à chaque fois Omar vous devance, le classement du JDD des personnalités préférées des Français et le classement du rire préféré des Français. Vous êtes deuxième.
Je me ris dessus.
Et Omar, lui, est premier. Omar Sy, c'est aujourd'hui le seul comédien français qui, après le triomphe de la série Lupin, a signé un contrat énorme avec Netflix. Et pourtant, à la base, il n'avait pas du tout prévu cette carrière. Non, Omar, il voulait être chauffagiste. Il voit le jour le 20 janvier 78 à Trappes, en région parisienne, dans une famille nombreuse, puisqu'il a 8 frères et sœurs. Sa mère est une femme de ménage, son père ouvrier. Et l'idée chez les 6, si vous voulez, le concept éducatif, c'est surtout ne pas faire de vagues. Omar s'y applique consciencieusement, rêvant donc petit. C'est un bon élève, un peu timide, drôle, mais pas un pitre qui cherche à tout prix à attirer l'attention, même si déjà ses imitations de l'humoriste ivoirien Michel Gohou lui valent un certain succès à la récré. Un de ses potes, on est sûr, il sera humoriste. Il lui dit... Omar lui répond « Non, Jamel, c'est pas pour moi humoriste, pourquoi pas acteur ?» Ce Jamel, vous l'avez deviné, c'est Jamel Debbouze. Et oui, Omar Sy était à l'école avec Jamel et aussi Nicolas Anelka, trois camarades cul et chemise qui ne se doutaient pas que dans quelques années, ils pourraient racheter Trappes, Montfort-l'Amaury, voire la totalité des Yvelines à eux trois. Et c'est donc Jamel qui, le premier, décèle le potentiel d'Omar. Vous serez Stéphane le second en lui donnant sa chance à la télé. J'y viens, cessez de me faire des signes, c'est vous.
Ah, mais restons modestes. Hein. Pour l'instant, c'est son talent, il le doit qu'à lui.
Oui, mais à vous aussi. Non. Pour l'instant, on est à jusqu'à la fin des années 90 et Omar vit toujours à Trappes et reste sur son projet de devenir chauffagiste. On a tous, selon nos a priori, une image de ce que doit être le quotidien d'un jeune homme en banlieue au tournant des années 2000.
Wesh gros, ça va ou bien ?
Voilà, ça c'est votre a priori à vous. Rappelez Stéphane, le quotidien d'Omar à l'époque, c'est ça. Et oui, en cachette de ses potes de cité, Omar écoute Chant de France et surtout Céline Dion qu'il adore, tout en se prosternant devant des posters de Mohamed Ali. Cette dualité entre vulnérabilité et force nourrira l'artiste qui sommeille en lui, écrirait certainement un journaliste de Télérama. Goldman est son idole, c'est ta chance, son morceau favori.
C'est ta chance.
L'histoire d'une fille qui veut réussir sa vie et surmonte tous les obstacles que le destin sème sur sa route. À 17 ans, tout s'accélère, Omar est engagé chez Radio Nova avec Jamel, Fred Testo, Vincent Dezania et Michael Youn. Le showbiz se rapproche, l'entretien de la chaudière à granulés EM Leblanc s'éloigne. Et puis, voilà qu'un mois avant de passer son bac, Omar est invité au Festival de Cannes pour le cinéma de Jamel. Il prend alors la décision d'arrêter ses études, décision immédiatement payante puisqu'il se retrouve à jouer dans le clip de Zebda, Tomber la chemise. Et titre sorti en 98 qui encore aujourd'hui donne l'occasion à des experts comptables de se mettre torse nu lors de séminaires d'entreprise à Chalon en Champagne. Omar se retrouve donc à jouer dans le clip avec son pote Fred Testo. Canal+ les repère et leur confie leur première émission, le Visiophone. Puis ensuite ils montent sur scène dans le spectacle Service après-vente des émissions Omar et Fred le spectacle. Et ce n'est qu'en 2005 que ce spectacle est adapté pour la télévision. Oui, oui, chez vous Stéphane, chez vous. Vous êtes le René Angélil de l'humour, le Dominique Besnéard du LOL. Le duo est intégré à l'émission que vous présentez sur Canal, 20h10 pétante. Alors, bon, ils sont encore complètement inconnus à cette époque. D'ailleurs, un soir sur deux, vous les lancez en disant « Et maintenant, on retrouve... »
Olivier et Maurice.
Mais très vite, le duo explose en s'inventant des personnages cultes, notamment Jean Bloguin, humoriste.
Service après-vente, bonjour.
Oui, bonjour. Les Américains ont triplé les droits de douane sur le Roquefort.
Oui, c'est tendu.
Ben, il faut peut-être envoyer les casques bleus. D'Auvergne. Bleu d'Auvergne. Jean Bloguin, humoriste.
Toute une époque, Stéphane. Quand Éric Toledano et Olivier Nakache lui proposent de tenir son premier rôle important au cinéma, celui d'un animateur de colo dans Nos Jours Heureux en 2006, un film que je vous conseille d'ailleurs, oui. Il leur répond qu'il n'est pas acteur, mais il accepte quand même. Au pire, je vais me marrer, il dit. Son jeu n'est pas académique, c'est un instinctif, il improvise beaucoup, mais c'est aussi un gros bosseur. Et en 2011, c'est le grand tournant. Toledano et Nakache lui proposent le premier rôle dans Intouchables. L'histoire est simple, un tétraplégique, un chômeur au RSA, Earth, Wind & Fire, le César du meilleur acteur, plus de 50 millions d'entrées dans le monde, emballé, c'est pesé. Omar n'est plus un acteur qui monte, il est l'acteur français le plus en vue. Au départ, il tente de la jouer modeste, on s'emballe pas, il achète une petite maison à côté d'une forêt avec, je cite, un jardin et un potager dans lequel je fais pousser des carottes, tomates, salades, fraises, groseilles et mûres. Mais un jour, alors qu'il discute avec Stéphane Bern, ce dernier lui dit « Mais enfin Omar, ça sert à quoi d'être pété de thunes et d'avoir eu le César si c'est pour planter des choux dans une maisonnette de Manant ?» Omar lui dit « T'as raison Stéphane, ni une ni deux, il déménage dans une grosse villa à Los Angeles. » Il peut se le permettre, il est l'acteur français le mieux payé, 3,4 millions d'euros pour l'année 2016 seulement, c'est pas mal, comme on dit. C'est aussi cette année-là qu'il détrône son idole en tête du classement des personnalités préférées des Français, Jean-Jacques Goldman. Goldman dont il a un peu le côté star discret, pudique comme ça, pudeur qui va assez loin puisque, le saviez-vous, Omar Sy refuse catégoriquement toute scène de nu. Je serais obligé de refuser le meilleur rôle du monde s'il nécessitait un déshabillage intégral. Tout l'inverse de Stéphane Bern qui lui réclame des scènes de nu. La dernière fois, il a dit « Eh oh, si je me mettais à poil !» Le réel lui a dit « Mais Stéphane, c'est un flic en Lorraine et c'est l'hiver, pourquoi tu te mettrais à poil ?»
Oui, non, mais...
Mais si, Omar a donc...
Là, on est dans le rêve.
Dans le 1% de faux. Oui. Omar a donc déménagé à Los Angeles, mais il ne parle pas un mot d'anglais. Est-ce grave ? Non, car il tourne dans X-Men et dans Jurassic Park 4, deux films un peu moins verbeux qu'un Romer. Omar n'en revient pas de tout ce qui lui arrive. Sur le tournage de L'Appel de la Forêt, il s'arrange par exemple pour ne pas croiser Harrison Ford au catering parce qu'il a peur de perdre ses moyens. C'est type à chou. Alors, forcément, une telle ascension, nous de l'extérieur, on est admiratif. Mais qu'en pense son pote Fred Testo, qui lui n'a pas encore eu l'opportunité de croiser Harrison Ford? Eh bien, visiblement, ils sont toujours très proches, puisque quand on demande à Fred quelle est selon lui la plus grande réussite d'Omar, il répond... Omar sait saisir une viande comme personne. Voilà. Donc moi qui suis, je vous le rappelle, son autre meilleur pote, je dirais la fidélité. Le 6 octobre dernier, Omar a souhaité un joyeux anniversaire à Hélène, sa femme, pour la 24e fois. Imaginez-vous, Stéphane, vivre 24 années consécutives avec la même personne.
Je vais vomir.
Non, vous êtes cynique. C'est beau, c'est beau. Omar et Hélène 6 se sont rencontrés dans les années 90 sur le tournage d'un clip. Coup de foudre absolu, mariage en 2007, 5 enfants depuis. Un équilibre familial qui lui permet de garder la tête sur les épaules alors que les distinctions s'accumulent. Il vient d'être par exemple élu homme GQ de l'année en Allemagne. Oh, je rêverais de ça. Il sera bientôt à l'affiche du prochain Jurassic Park et il tiendra le rôle principal dans Tirailleurs, un film très attendu de Mathieu Vadepied, dont le tournage a débuté fin août dernier dans les Ardennes et qui évoquera les destins de ces tirailleurs sénégalais qui se sont enrôlés dans l'armée française en 17 et où, selon nos infos très confidentielles et à vérifier, il devrait donner la réplique à Stéphane Bern.
Oh les mains.
Ouais, ça va le changer d'Harrison Ford. Hein.
Merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces comédiens malgré eux.
Pour retrouver ceux qui ne jouent jamais la comédie et qui nous font remonter aux origines de notre quotidien, un quotidien composé essentiellement, en ce qui me concerne, de tarte au sucre.
Olivier, vous aimez ça?
J'adore la tarte au sucre.
Ouais, moi aussi, c'était vraiment le dessert de mon enfance.
Mais d'abord, on retrouve David Castello-Lopez, Stéphane, aux origines d'un personnage de notre enfance, je parle David et moi, Muscleur.
Tout à fait. Je vous ai parlé de beaucoup de jeux et de jouets depuis un an quand même. Hein. Et
vous aimez ça, vous êtes très joueur.
Je suis très joueur. Hello Kitty, les Transformers, le télécran, le Monopoly, la pâte à modeler, Docteur Maboule, Barbie. Mais j'ai voulu attendre avant de vous parler du jouet qui a le plus compté pour moi dans mon enfance. Celui qui m'a émerveillé plus qu'aucun autre. Et ce jouet, c'est Musclor. Ou plutôt, comme on les appelle, les maîtres de l'univers. Parce qu'il n'y avait pas que Musclor. C'est une ligne de jouets assez particulière parce qu'elle a eu un succès presque inégalé dans l'histoire des jouets, mais ce succès a duré très peu de temps, de 1982 à 1990. Et donc, à 1986, pardon. Et donc, c'est un jouet qui, plus encore que d'autres, est ultra générationnel. Moi, je suis né en 1981, c'était mon jouet préféré, mais j'ai des amis nés en 1984 qui voient même pas de quoi je veux parler quand je dis Musclor, quoi. Alors d'abord, Musclor, c'est qui? Musclor, c'est Louis, je le montre à la caméra ici. C'est une sorte de Conan le Barbare, si vous voulez, qu'on aurait mélangé avec Superman ou Batman. Conan le Barbare, on voit bien, hein, c'est-à-dire que slip en fourrure avec une ceinture, gros muscles, grosse hache, grosse épée quelquefois, mais aussi Superman et Batman. Pourquoi?
Eh bien,
parce que la ville Musclor ne s'appelle pas Musclor, mais Adam. Et Adam, c'est un prince assez baraque, mais sans plus, qui vit sur une planète qui s'appelle Eternia. Et Adam ne se transforme en Musclor que lorsque la situation le demande. Mmh. Et contrairement à Batman et Superman, qui se changent de façon souvent assez discrète, à l'abri des regards, Musclor, lui, il opère sa transformation d'une façon extrêmement bruyante et spectaculaire en disant la phrase suivante que j'ai répétée des centaines de fois dans ma chambre d'enfant: par le pouvoir du crâne ancestral,
je détiens la force toute puissante.
On l'écoute.
Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante.
Regardez comme c'est...
Non, mais ce qui est génial, c'est qu'on se rend compte avec le recul que c'est un seul type qui faisait toutes les voix de toutes les séries, Nicky Larson, de Ken le survivant.
C'était toujours aussi le même. Alors, par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Je comprenais pas très bien ce que ça voulait dire, crâne ancestral. Moi, alors, je disais le crâne ancestral. c'est quand on est enfant, crâne ancestral, c'est un peu compliqué. Musclor, il n'avait pas de cheval, mais il avait un tigre qui était orange et vert, qui lui aussi se transformait. Musclor, il avait un ennemi juré, son alter ego maléfique qui s'appelait Skeletor. Skeletor, c'est quand même un personnage incroyable dans le sens où il y a que sa tête qui est décédée. Vous voyez, le reste de son corps
et en
lui
pleine forme,
est totalement
il sort du fitness,
bodybuildé, voilà, bodybuildé et normal, sauf son visage. Il y avait quelques dizaines d'autres figurines qui avaient toutes un petit quelque chose d'étonnant. Je vous présente Fisto, par exemple. Il s'appelle Fisto à cause de son très gros poing en métal qui lui permettait de taper les gens avec un ressort. Mais alors, d'où ils viennent ces maîtres de l'univers?
Ah oui, on est à 4 minutes, il serait temps.
Ils viennent des États-Unis, de la plus célèbre entreprise de jouets au monde qui s'appelle Mattel. Et c'est une histoire assez décevante qu'on est adulte. Mattel, ils étaient surtout connus pour Barbie, dont j'ai déjà parlé ici. Mais ils étaient un peu nuls en jouets pour garçons. Et surtout, ils s'étaient fait complètement écraser la gueule de ce côté-là par les produits dérivés de Star Wars. Wars. Alors ils cherchaient quelque chose pour avoir du succès aussi de ce côté-là. Et ils ont fait un truc très simple. Ils ont mis des petits garçons de 5 ans dans une pièce. Ils leur ont montré plein de jouets différents, de toutes les tailles, de tous les genres, des flics, des militaires, des monstres. Et ils ont remarqué que ce qui marchait le mieux, c'était les personnages genre Conan le Barbare. Et ils ont construit leur ligne de jouets de façon ultra marketing. Ils ont remarqué par exemple que les petits garçons, quand ils jouaient, ils aimaient reproduire sur leur figurine le pouvoir que leur maman ou leur instituteur avait sur eux. Ils voulaient avoir le pouvoir. Et donc non seulement ils ont trouvé l'idée de la force toute puissante, mais ils ont fait un personnage qui avait l'air physiquement extrêmement puissant, une sorte de Schwarzenegger si vous voulez, qui d'ailleurs avait joué Conan le Barbare. Ils ont dessiné leur personnage et en 1982, les Maîtres de l'Univers ont été commercialisés aux États-Unis puis en France, juste à temps pour que le tout petit garçon que j'étais les trouve fascinants. La première année, ils ont fait 38 millions de dollars de chiffre d'affaires, la seconde 80, la troisième 111, la quatrième 250, la cinquième 1986 qui est l'année où moi j'étais vraiment fan, 400 millions, et là, bam, ça s'est arrêté brusquement. Oui. En 1987, ils ont fait que 7 millions de chiffres d'affaires. Alors, il y a des questions assez compliquées de gestion des stocks que j'ai pas hyper super bien compris. Mais aussi, ils ont pris un certain nombre de décisions ratées. Ils ont fait un film nul, un film avec des vrais acteurs, où Musclor était joué par Dolph Lundgren, le méchant russe dans Rocky IV, qui n'était pas du tout aussi musclé que Musclor. Très décevant de ce point de vue-là. En plus, il y avait des personnages qui étaient même pas dans les jouets. Enfin, c'était nul. Alors aujourd'hui, Musclor, 35 ans après, il connaît une nouvelle jeunesse grâce aux adultes comme moi, nostalgiques, professionnels. Et cette année, Musclor a été ressuscité dans une nouvelle série flambant neuve sur Netflix. J'ai vu quelques minutes, ça vaut pas notre enfance. Peut-être aussi que c'est moins émerveillant parce que j'ai plus 4 ans. Ouais. Mais c'est quand même pas si mal. Voilà.
Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et vidéo, hein, sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour se constituer ce corps exagérément musclé, il en a bouffé de la tarte au sucre. Olivier Pouls, c'est votre conseil nutritionnel aujourd'hui. Une bonne tarte au sucre, mais d'où vient-elle?
Oui, alors c'est vrai qu'elle est aussi bonne pour le goût qu'elle est terrible, malheureusement, pour nos muscles.
Catastrophique.
Mais alors qu'est-ce que c'est bon? Et je dois vous avouer que ça, c'est vraiment l'un des goûts de mon enfance. En Belgique, la tarte au sucre, c'est une institution. C'est une institution dans le nord de la France aussi, parce qu'évidemment, l'histoire de cette tarte est très intimement liée à l'histoire de la région et donc son rapport avec le sucre. Alors depuis l'Antiquité, évidemment, puis les croisades, le sucre est consommé en Europe, il est connu, essentiellement provenant de la canne à sucre ou du miel. On raffine d'ailleurs le sucre dans les régions du Nord et dans la région de Lille depuis le XVIIe siècle, les années 1675, mais ça reste au départ une activité assez insignifiante, toute petite. Elle va croître au fil des ans avec l'ouverture de nombreuses raffineries. Une vraie industrie du sucre se développe dans cette région. On fait venir à l'époque les cannes à sucre de nos colonies. Mais malheureusement, au début du 19e siècle, cet approvisionnement en canne à sucre devient beaucoup plus compliqué. Et notamment à cause du blocus anglais qui est imposé. Et on n'arrive plus à faire venir ces cannes à sucre de l'autre bout du monde. Il faut trouver une solution pour trouver autre chose qui permette de fabriquer du sucre que les Français ont commencé à apprécier, qu'ils aiment beaucoup, qui est un produit relativement cher d'ailleurs, mais qui fait partie de la vie. Et donc, c'est la betterave sucrière qui va commencer à s'imposer. Alors, la betterave, elle est connue déjà depuis quelques années à ce moment-là, mais elle n'est pas vraiment exploitée. Et c'est Napoléon Ier, qui va, dès les années 1812-1814, promouvoir la culture intense de la betterave sucrière. Et cette betterave sucrière, elle a besoin d'un climat qui correspond bien à celui du Nord, c'est-à-dire un climat très tempéré, un petit peu d'eau, pas trop de chaleur. Elle s'épanouit là-bas, on va en planter énormément. Et comme on plante des betteraves, qu'est-ce qu'on va construire à côté? Eh bien évidemment, des usines pour raffiner le sucre de ces betteraves et ensuite produire le sucre qui va partir un petit peu partout en France. Et donc on va évidemment inventer aussi des recettes puisque là-bas on a ce sucre sous la main. Mmh. Et la grande recette du nord de la France, c'est cette fameuse tarte au sucre. Au départ, c'est sur la base d'une pâte briochée qu'on va exagérément sucrer au moment de la cuire de manière à ce que lors de la cuisson se développe au-dessus de la tarte une espèce de petit caramel à la fois croquant, croustillant et qui va, au moment où la tarte va refroidir, légèrement durcir. Et donc c'est vraiment très intense en sucre. Et je vais donc vous donner la recette assez facile pour réaliser cette tarte au sucre. Alors on a besoin évidemment de sucre qui est un sucre blanc classique pour la pâte, mais aussi de vergeoise ou de cassonade, qui sont des sucres qui sont moins raffinés, qui à mon avis sont plus intéressants aussi en termes nutritionnels notamment. Un peu de levure, de la farine, 250 grammes, 3 œufs, 150 grammes de beurre, une petite pincée de sel et une petite, un petit 5 centilitres de lait. Parce que ce qu'on va faire, c'est utiliser le lait pour délayer la levure. On va mettre la levure dans le lait tiède. Pendant ce temps, on fait une pâte, on verse la farine, on ajoute les œufs, le sucre, la petite pincée de sel, le lait avec évidemment la levure, on mélange tout ça, on incorpore bien, on laisse reposer pendant à peu près 2 heures. J'ai oublié de dire qu'on rajoutait aussi la moitié du beurre en petits dés. On étale la pâte et puis on va verser ce qu'on appelle l'appareil par-dessus qui va faire ce croustillant, cette tarte au sucre. C'est donc la vergeoise, le reste du beurre en petits dés, et on va cuire le tout pendant 30 minutes dans un four à 200 degrés. Au moment de la cuisson, la pâte va légèrement lever, évidemment, et puis surtout, le sucre mélangé au beurre va devenir du caramel, une espèce de caramel un petit peu liquide, et on la mange tiède ou froide, avec ce sucre légèrement croustillant. Bon, vous l'avez compris, entre le beurre, le sucre et tout ce qui va dedans,
en c'est calories, assez calorique. C'est pas mal, oui.
Je pense que je fais une des chroniques les plus caloriques de la saison avec cette recette, mais c'est diablement bon. Et moi, je vous avoue que le mercredi après-midi, quand on avait une part de tarte au sucre devant la télévision, en regardant les aventures de Musclor, par exemple, on était sacrément heureux.
Ouais, pas belle la vie. Pas belle la vie dans les années 90.
Oui, c'est bien une recette bien belge sucre, pour la fête du roi, ce 15 novembre.
Ah ben voilà.
Ça, j'y avais pas pensé, tiens, Stéphane.
Ah, vous fêtez jamais
le roi des Belges?
J'oublie tous les ans. Je m'en veux terriblement,
le 15 novembre.
J'oublie souvent. Ouais. Merci Olivier. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, après avoir pris vos calories, vous allez griller quelques neurones. On va jouer avec l'histoire. Vous êtes prêts à vous affronter? C'est la lutte finale.
Je vais le défoncer, oui.
Europe 1, historiquement vôtre.
Vous connaissez le principe de la lutte finale. Des questions à chacun et une pour tous, le cas échéant, pour vous départager. Mais avant de commencer, j'aimerais m'assurer que vous soyez tous les trois totalement concentrés. C'est vrai que parfois, il y a une contrariété qui peut vous obséder. Écoutons ce que nous avons appelé au sein de l'équipe le drame du pâté en croûte.
Tu sais que j'ai apporté du pâté en croûte?
Là? Pour tout à l'heure? Ah, c'est là qu'il apporte le pâté en croûte? Ah non, c'est plus tard. Mais tu te fous de ma gueule, il n'y a plus que ça? Bah non, mais je vais mourir de faim.
Tu t'adresses à David Castello-Lopez.
Oh non, mais non, mais c'est pas vrai.
C'est toi qui m'as bouffé mon pâté en croûte.
J'ai merdé, ouais.
Mais oui, cette ordure, il avait bouffé tout le pâté en croûte qu'on m'avait présenté avant, alors qu'il était tout entier, tout ça, je me faisais une joie. C'est honteux. Allons-y, on est prêts.
Alors, Olivier, je commence par vous. Vous connaissez Landru?
Oui.
Vous savez qui est Colette?
Oui.
Eh bien, durant le procès de Landru, il a demandé un autographe à Colette. C'est vrai ou c'est faux?
Donc ça sous-entend qu'elle était venue à son procès.
Ah, oui, sinon il n'aurait pas pu lui demander.
Non, c'est faux.
Pourquoi dites-vous c'est faux?
Parce que j'imaginais pas Colette aller se présenter au procès de Landru.
Mais si, c'est intéressant. Elle était journaliste, elle était déjà très célèbre, elle est venue assister. Tout le monde était au procès de Landru.
Vous aussi?
Non, j'étais pas né. Bon, dommage. David, c'est pour vous. Gandhi a longtemps eu un vrai traumatisme envers le sexe. Dans sa jeunesse, il a eu une MST qui l'a empêché d'avoir toute relation sexuelle pendant 6 mois. Vrai ou faux?
Ah, mais j'en sais rien. C'est peut-être et peut-être pas. Et voilà, c'est impossible à savoir. Et j'ai envie de dire que c'était un autre problème, peut-être. Qu'en fait, c'était pas une MST. Donc, je dirais non.
Bien vu. Ouais, c'est un autre problème qu'il a eu. C'est pas une MST. Il était au chevet de son père. Il avait 16 ans et il s'est absenté avec son épouse quelques minutes pour prendre un peu de plaisir. À son retour au chevet de son père était mort, d'où une forte culpabilité.
Oh, la belle histoire. La belle histoire, on n'a pas la petite musique de Disney?
C'est horrible. Mathieu, durant l'Antiquité, on peut dire que la première femme médaillée olympique n'était pas une femme. Vrai ou faux?
Donc, j'en sais évidemment strictement rien, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre à partir de ça? Non, spontanément, je dirais que c'est vrai. Je ne sais pas. Moi, j'ai envie de répondre vrai. C'était la catastrophe.
C'était une vraie femme. C'était la princesse Siniska.
Et alors?
Mais pourquoi c'est une question? Parce que les Jeux Olympiques, je vous le rappelle, étaient réservés
aux hommes.
Aux hommes.
Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est vrai.
Elle s'est déguisée.
Pour
les épreuves équestres, en fait, ce n'était pas le cavalier qui était récompensé, mais le propriétaire du cheval. Ah, et c'était le cas de la princesse Siniska. Elle a remporté la médaille d'or comme propriétaire d'un cheval qu'un cavalier a monté. Vous comprenez?
Je suis content d'avoir perdu, ouais. C'est intéressant.
Ouais. Ouais. Voilà. Et donc c'est David Castillo-Lopez, qui est un peu comme l'émission d'aujourd'hui, comédien malgré eux. Il voulait pas gagner. Il disait c'était la bof réponse. Vous voyez.
Ouais.
Et en fait, vous avez gagné.
Tout à fait. C'est ça tient à rien.
Ça tient à rien. C'est ça. La lutte finale. Merci à tous. Bravo à David Castello-Lopez. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Il était consacré à ces personnages de l'histoire qui sont devenus comédiens. Mais malgré eux, vous, Stéphane, vous êtes désormais comédien. Oh, les mains, tout ça, on sait. Mais est-ce que vous rêviez d'être comédien enfant?
Ah oui, oui.
Déjà?
Ah oui, déjà.
Ah, vous avez déjà votre discours prêt alors pour la remise du César?
Non, il y a peu de chances que j'ai un César.
C'est voilà. Jamais.
Restons calmes.
Je suis sûr que c'est très très vrai.
Non, je suis sûr. Je vous demanderai bien le programme de demain, Stéphane.
Eh bien, je vous le donne, sans problème, mais vous pouvez le lire aussi, il est écrit là.
Bon, d'accord.
Demain, on réunit trois personnages qui ont l'amour de la mer. Et pas n'importe qui. Le roi Louis XVI, le roi qui a voulu voir la mer. Albert Ier de Monaco, qui l'a vu aussi, c'était le prince océanographe. C'était moins loin pour lui, hein, puisqu'il était sur la rivière. Hein.
Et Philippe Laville aussi, le chanteur qui aime tellement la mer que c'est là qu'il préfère y faire l'amour.
Ah oui, comme disait la chanson. Oh, moi, j'ai hâte, donc.
Moi aussi, le temps d'acheter du Mercal, mais on se retrouve demain. À demain, Stéphane. À demain, les amis.
À demain, Mathieu. À demain, les amis. À demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.